RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 19h à Paris et à Cannes.
Nicolas Brousse.
Avant la Palme, la panne à Cannes. Le festival, comme une partie de la Côte d'Azur, a été privé d'électricité ce samedi. Une panne due à un sabotage, mais le courant est rétabli. La cérémonie de clôture peut se tenir avec la révélation toujours très attendue du palmarès. Nous serons en direct avec l'une de nos envoyées spéciales. Alors que l'Ukraine n'en a pas terminé avec la guerre, l'Union européenne décide sans attendre de rétablir les droits de douane sur ses produits agricoles. Analyse à suivre de cette décision qui surprend pour le moins Kiev. Le débat sur la proposition de loi sur la fin de vie s'est terminé à l'Assemblée nationale française cet après-midi. Deux semaines de discussion, tant le sujet est sensible, y compris chez les parlementaires. Et puis dans 10 minutes, juste après ce journal, Géopolitique le débat avec Marie-France Chatin. Clap de fin à Cannes ce soir. Les cinéphiles attendent la révélation complète du palmarès au cours de la cérémonie de clôture. Et ils ont aussi attendu aujourd'hui le retour de l'électricité après une panne sur la région due à un sabotage d'un poste et d'un pylône haute tension. Une enquête est en cours sur ces actes de malveillance qui n'auront pas réussi à gâcher la fête du cinéma. Sophie Torlotin fait partie de l'équipe qui va nous faire vivre cette cérémonie de clôture en direct dans une heure et qui va nous la commenter. Sophie, est-ce qu'on a déjà des rumeurs, des premiers résultats de ce palmarès ?
Bah et surtout, les premiers prix en fait viennent d'être décernés puisque la cérémonie a commencé il y a à peu près un quart d'heure. La caméra d'or échoit à l'Irakien Hassan Hadi pour The President's Cake, distingué parmi 28 premiers longs métrages. Mention spéciale pour le Nigérian Akinola Davis Jr., seule présence du cinéma africain subsaharien en sélection. Le jury, présidé par Juliette Binoche, a déjà commencé à remettre ses prix. La cérémonie est assez menée tambour battant. Avec tout d'abord la remise d'un prix spécial à l'instant au chinois Bigan pour son film Résurrection. Je vois aussi monter sur scène le réalisateur brésilien Kleber Mendoza Filho qui reçoit à la place de Wagner Moura le prix du meilleur acteur. Ça c'est pour le film L'Agent Secret. On sait... Seule indiscrétion qui a filtré, on sait qu'il va y avoir un prix ex-aequo et sont encore présents dans la salle les équipes des films Sirat de l'Espagnol Oliver Lax, Jeune Mère des frères Dardenne, Un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi, Deux procureurs de l'Ukrainien Sergei Losnitsa et puis La petite dernière d'Avzia Herzi. Alors parmi ces réalisateurs, un ou peut-être une seule repartira dans une trentaine de minutes avec la précieuse Palme d'Or.
Et on suivra tout ça, bien sûr, avec vous, Sophie Torlotin du service culture des RFI, mobilisée pendant tout ce festival et qui reprend l'antenne dans pile une heure pour la retransmission de la fin de cette cérémonie de clôture et les commentaires. À tout à l'heure.
Radio France Internationale.
Un tiers de la population syrienne, soit plus de 8 millions d'individus, étaient recherchés par les services de renseignement et de sécurité du régime Assad, renversé au mois de décembre dernier, annonce ce samedi du nouveau pouvoir syrien, qui salue par ailleurs la levée formelle des sanctions américaines imposées au pays en proie à une grave crise économique après plus de 13 ans de guerre civile. Après la décision surprise de Donald Trump la semaine dernière, le secrétaire d'État au Trésor a confirmé hier que l'administration américaine mettait en œuvre des autorisations pour encourager de nouveaux investissements en Syrie, autorisation pour l'instant temporaire de 6 mois. Et l'émissaire américain pour la Syrie vient d'ailleurs de rencontrer en Turquie le président syrien Al-Shara. Bonne nouvelle pour l'économie syrienne, mauvaise nouvelle pour l'économie ukrainienne. Avec la fin d'une mesure de soutien prise au début de la guerre, les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord cette semaine pour rétablir les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens dès le 6 juin prochain. Une décision bien sûr que déplore Kiev, Justine Fontaine.
Retour à la case départ, c'est le sentiment côté ukrainien après cette décision des 27. Dès le 6 juin, au-delà d'un certain tonnage fixé à l'avance, le maïs, le poulet ou encore le colza produit en Ukraine seront soumis de nouveau à des droits de douane à leur entrée dans l'Union européenne. Un coup dur pour l'économie du pays où la guerre fait toujours rage, car avec la métallurgie déjà en difficulté à cause des combats dans l'Est, l'agriculture c'est l'autre grand pilier du PIB ukrainien. Une délégation de parlementaires est bienvenue de Kiev, plaider sa cause cette semaine dans la capitale belge, sans succès. Les autorités ukrainiennes estiment le manque à gagner à près de 3 milliards d'euros par an. Bruxelles, de son côté, évoque plutôt 1,5 milliard, soit à moitié moins. Ce retour en arrière était attendu, car les agriculteurs de plusieurs pays membres estiment faire face à une concurrence trop forte de produits ukrainiens à bas prix. La Slovaquie et la Pologne, par exemple, avaient pris les devants ces derniers mois en restreignant les importations sur leur territoire de certains produits agricoles vendus par Kiev.
Des précisions de Justine Fontaine, et la Commission européenne ajoute qu'elle continue les discussions avec l'Ukraine pour moderniser, selon les termes diplomatiques, son accord commercial avec Kiev. En attendant, la guerre continue. Attaque massive de drones et de missiles russes sur la capitale ukrainienne ce matin tôt, au moins 15 blessés. Ça s'est passé quelques heures avant la deuxième phase d'un échange record de prisonniers, 1000 de chaque camp. Une phase qui a permis le rapatriement de 307 détenus d'un côté comme de l'autre. Outre l'Ukraine, il est un autre conflit qui n'en finit pas, celui qui se déroule à Gaza. La défense civile de ce qui est encore un territoire palestinien fait état de 15 morts ce samedi, dont des enfants, après de nouvelles frappes. L'armée de l'air israélienne assure avoir visé plus de 100 cibles terroristes. Le bilan des pluies torrentielles qui ont provoqué cette semaine de vastes inondations dans l'est de l'Australie a été porté à 5 morts aujourd'hui. 50 000 personnes restent piégées par les eaux qui ont tout de même commencé à se retirer. C'est donc un nouveau signe du changement climatique qui ne préoccupe guère Donald Trump, l'homme des énergies fossiles. On se souvient de son drill, baby drill, lors de la campagne pour résumer sa politique de forage à tout va. Eh bien, il ne veut pas délaisser pour autant l'énergie nucléaire. Au contraire, il en fait même un nouvel objectif, car si les États-Unis sont la première puissance nucléaire civile mondiale. Ces 94 réacteurs encore opérationnels se font vieux. Leur âge moyen croît, il atteint désormais 42 ans. Alors hier, le président américain a signé 4 décrets avec une ambition, Elisa Robuchon, quadrupler la production d'énergie nucléaire dans les 25 prochaines années.
Le temps du nucléaire est venu, a déclaré Donald Trump, et il a mis ses paroles à exécution. Les décrets signés accélèrent les essais de réacteurs et facilitent leur création. Donald Trump prévoit aussi de doper l'extraction et l'enrichissement d'uranium. Enfin, l'examen d'une demande de construction d'un nouveau réacteur ne devra pas dépasser 18 mois et la commission de réglementation nucléaire sera réformée. Objectif de ces décrets, gagner le duel de l'intelligence artificielle avec la Chine, selon le ministre de l'Intérieur Doug Burgum, une technologie très énergivore en électricité. Mais ces décrets ne font pas l'unanimité. Grégory Jasko, ancien directeur de la Commission de réglementation nucléaire, les a qualifiés de guillotine pour le système de sécurité nucléaire de la nation. Donald Trump promet lui des procédures très rapides et très sûres. Les premiers tests et déploiements de réacteurs nucléaires pourraient avoir lieu d'ici janvier 2029.
Elisa Robuchon du service international des RFI. 4 personnes écrouées dans une enquête menée à Paris sur une filière d'immigration illégale entre l'Égypte et les États-Unis, via notamment la France, filière qui aurait concerné plus de 1600 personnes en un peu plus de 2 ans. Les suspects sont âgés de 24 à 72 ans. Un passage d'Égypte vers l'Europe était facturé 10 000 euros. Celui d'Europe vers les États-Unis, 6 000 euros supplémentaires. La France, où les députés ont achevé en milieu de journée l'examen de la très importante proposition de loi relative à la fin de vie. Proposition qui contient 2 textes séparés, un sur les soins palliatifs, l'autre, beaucoup plus discuté, sur l'aide à mourir. Victorien Villaume, c'est donc la fin d'un marathon de quasi 2 semaines pour les parlementaires.
Il est 13h ce samedi quand la ministre Catherine Vautrin clôt l'examen du texte.
Dernière des dernières prises de parole, avis favorable à cet amendement. Un merci à toutes et tous pour votre engagement. Voilà.
13 jours de débat animés, mais malgré la sensibilité du sujet, des échanges globalement respectueux reconnaissent les députés, à commencer par le rapporteur, Olivier Falorni.
Je veux remercier tous les députés, et notamment tous ceux qui ont défendu des convictions, et je dis bien les députés de tous ces bancs. Nous avons essayé, et je pense en grande partie réussi, à montrer le meilleur de l'Assemblée nationale.
Les parlementaires ont donc approuvé la création d'un droit à l'aide à mourir et ont dû trancher sur des questions cruciales. Qu'est-ce que la phase avancée d'une maladie ? Sous quelles conditions quelqu'un qui n'est pas français peut recourir à ce droit ? Le vote de la proposition de loi aura lieu mardi, mais difficile de savoir quelle en sera l'issue, les partis ne donnant pas de consigne de vote. Un député insoumis se dit confiant pour une adoption grâce aux voix qui vont de LFI jusqu'aux macronistes.
Victorien Villaume, et précision qui a son importance, la proposition de loi sur la fin de vie ne fait que commencer ce que l'on appelle la navette parlementaire après le vote de mardi. Elle sera examinée au Sénat à une date indéterminée et repartira ensuite à l'Assemblée. Dimanche politique y reviendra demain. Rendez-vous à 18h10 temps universel sur RFI. Pour l'heure, c'est Géopolitique, le débat avec Marie-France Chatin. Merci d'écouter Radio France Internationale.